RCC, l'ITV Calvez, animé par François Colombani.
Il est là en chemin en hausse devant son micro, c'est François. Salut François.
Nagui, comment ça va?
Ça va.
On est en attente des nouvelles mesures préfectorales qui vont mettre tout le monde de bonne humeur. Alors aujourd'hui, on est le 19 juillet. C'est le 200e jour de l'année. Il nous reste 165 jours à tirer.
Oh, rien que ça.
Parce que 2020-2021, c'était quand même pas top. Faut quand même l'avouer. Aujourd'hui, je reçois Pierre Bertogne, enfant de la citadelle, habitant. Pierre, comment ça va?
Ça va bien, merci.
Alors, avant toute chose, je fais toujours ce petit laïus sur ce qui s'est passé un 19 juillet. Alors, en 1900, il y a eu l'ouverture au public du métro parisien. En 1814, alors date très importante pour la Corse, il y a eu la naissance de Samuel Colt, l'inventeur du revolver. On va souhaiter une bonne fête aux Arsène, Aurore et Ornella. Il y a un dicton qui dit « À la Saint-Arsène, mets au sec tes graines ». Je rebondirai pas là-dessus.
C'est trop facile. Les graines ? Ah bon.
Il y a le jeu. Il y a toujours 4 places à gagner pour le Calvi Comedy Festival. Donc, une place offerte par Véronique Astolfi. La première question, alors il faut le numéro de téléphone, c'est 06 50 60 78 34. Première question, citez-moi 3 artistes féminines qui participeront au Calvi Comedy Festival. Allez, même 2, allez, je suis gentil, 2 ou 3. Le courrier des auditeurs. Alors, courrier des auditeurs, c'est la folie, vax, anti-vax, ça n'arrête pas. Alors, juste au-delà du débat qui est sain, légitime, des interrogations, moi, je me régale en ce moment. Sur les réseaux sociaux, tu vois, je poste un truc et je fous la poutre et là, je sors la bière et les chips et j'attends que ça morde.
Et il est content. Et il est content.
J'attends que ça morde, mais c'est incroyable.
Hein, j'ai vu, c'est impressionnant.
Je passe mes soirées, mais quel que soit le bord, hein, c'est impressionnant.
Ouais, sais,
c'est...
J'ai vu.
La bienveillance n'existe pas. Hein.
Sacré François.
Il aime bien balancer de la poudre.
Alors, mais une chose est sûre. Alors, c'est qu'on veuille se faire vacciner ou pas, lorsqu'on est positif ou cas contact, il y a un isolement à respecter. Donc, certains s'en affranchissent. Ce serait sympa de respecter ces petites périodes d'isolement. Ça éviterait d'empoutiguer un début de saison qui s'annonçait bien. Mais bon, finalement, donc on fera un salut fraternel à toutes les personnes qui sont solidaires. Aujourd'hui, je reçois notre ami Pierre Bertogne. Alors moi, c'est une saveur particulière. Je ne t'ai pas eu comme prof de Corse.
Non.
Mais je t'ai eu comme surveillant.
Exact.
Et tu n'étais pas commode.
Non plus.
Non plus. Non, j'étais un élève brillant.
Non plus.
Très sage.
Oh.
Et donc, on va commencer l'émission. Et la première question, celle que je pose à tous les invités, c'est si tu dois revenir en arrière et me dire le premier souvenir calvais que tu as et tout, qu'est-ce qui te vient comme ça à l'esprit?
Souvenir calvais?
Ouais, le tout premier, la première chose qui te vient à l'esprit comme ça, si... Alors, ça remonte maintenant.
Oui, ça commence à remonter maintenant. J'en ai des souvenirs calvés. Hein. Mais c'est sûr que moi, j'ai été élevé au quartier Neuf, à Gazeno. Ouais. Et c'est vrai qu'au quartier Neuf, à l'époque, c'était très, très habité. Il y avait beaucoup d'enfants, de jeunes. Voilà, moi, c'est ça, en fait. Hein, mes plus beaux souvenirs, c'est toujours les souvenirs d'enfance. Et surtout, le ronco, quand l'été, on allait au ronco.
Alors... C'est vrai que le ronco revient souvent chez les invités, c'est incroyable. Hein.
C'est normal, il y a l'expression. Hein, ouais.
Dis-la, parce qu'il y a des gens qui savent peut-être pas.
Quand on dit « Abed ou l'aqua du ronco », il a bu l'eau du ronco, ça veut dire qu'il est vraiment calvé. Quoi. Il a vraiment pris l'identité du lieu.
Alors, sur la scolarité, parce que tu as fait maternelle, primaire, collège ici, quel type d'élève tu étais?
Moi, j'étais un élève plutôt timide, plutôt sage, au début, hein. Plutôt réservé. J'étais pas un excellent élève, j'ai jamais été un excellent élève, mais j'étais un élève sérieux, voilà, c'est vrai. J'ai toujours aimé l'école.
Sorti du collège, direction Bastia.
Oui, lycée Giocante.
Il n'y avait pas encore là.
Il n'y avait pas encore le lycée de Balagne. Lycée Balagne, ouais.
Et comment ça se passe alors, ce petit déracinement, hein, c'est pas loin, c'est à Bastia, ouais.
Mais moi, je l'ai très bien vécu parce que ça a été pour moi une expérience qui m'a aidé à sortir un peu de cette timidité naturelle. puisque j'étais confronté, j'étais en internat pendant 4 ans. Hein. Donc j'étais confronté à la vie.
4 ans ?
Oui, j'ai fait 3 ans au lycée et un an en hypocagne.
Ah, j'ai
pas redoublé.
Soupçonné un redoublement.
Non, j'aurais pu. Non, comme je te disais, j'étais pas un excellent élève. Hein. J'étais un élève moyen, hein, qui travaillait, qui aimait ça. Hein. J'ai toujours aimé les lettres, l'histoire, les langues et tout. Mais voilà, j'avais un niveau correct, sans plus. Hein. J'ai jamais été le premier de la classe.
Alors, après l'obtention du bac, tu nous dis, tu fais une année d'hypocagne.
D'hypocagne à Bastia, au Fang aussi.
Et ensuite ?
Ensuite, je suis parti un an à Nice. Et puis, je m'y plaisais pas, ni je suis entré à Corté pour faire ma licence de lettres.
Alors, sur le déracinement à Nice, parce que c'est le cas de beaucoup d'élèves insulaires, comment tu l'as vécu ?
Je pense sincèrement que j'étais pas prêt, quoi. J'étais pas prêt pour partir, j'étais pas mûr encore, quoi. C'est souvent un problème de maturité, hein. Et je pense que, ben voilà, j'étais pas encore arrivé à cette maturité qui m'aurait permis de vivre sereinement le départ à Nice. Voilà, donc je suis rentré au bout d'un an, j'ai fait un an la deuxième année de DEUG, et puis après je suis rentré faire ma licence à Corté.
Et donc Corté, un nouveau monde.
Oui, non, j'aime beaucoup Corté, hein. C'est une ville que j'aime beaucoup, et puis j'ai découvert plein de choses, des choses nouvelles, j'ai tissé des liens avec des gens de toutes les régions de Corse, que je rencontre encore aujourd'hui, certains ont été profs aussi, hein, donc on a été même collègues, hein, on s'est connus à Corté, d'autres ont fait des carrières politiques qu'on connaît, brillantes par ailleurs, contrairement à la mienne.
On va y venir.
Oui,
hein, on va y venir.
C'est gros comme une citadelle, je l'ai vu venir, celle-là. Voilà, donc, j'étais très heureux à Corté, et j'y remonte souvent, et j'ai des copains, j'ai des connaissances, je suis très heureux.
Alors, en parallèle de la scolarité, il y a toujours les premiers jobs, alors les jobs d'été, entre guillemets, pour refaire 3 francs 6 sous. Par quoi tu as commencé ?
Moi, j'ai commencé comme beaucoup de jeunes à l'époque, par la Casavia. Voilà.
La fameuse.
La fameuse Casavia avec le patron, hein, Noël Casanova, qui est décédé maintenant. Et donc, beaucoup de jeunes travaillaient comme bagagistes à la Casavia à Calvi. Voilà. Là aussi, on s'est régalé. Hein. C'était une super
ambiance. Alors, pas facile, hein ? Pas facile, parce que sur le tarmac, il fait chaud.
Ouais, mais moi, j'ai jamais été fainéant.
Ah, aussi, premier job, parce qu'on en a, un petit peu abordé. En parallèle de tes études, il y avait Pion.
Ah oui, j'étais. Mais avant d'être surveillant, j'ai fait autre chose.
Ah
oui. D'abord, j'ai travaillé donc à la Casavia. Après, j'ai fait des saisons au Crédit Agricole au change, parce qu'à l'époque, il y avait des francs. C'était un autre siècle.
Ouais.
Donc j'ai fait j'ai changé l'argent, comme quoi. Hein. Les lettres mènent à tout. Hein. Et puis après, quand j'étais étudiant, j'ai été salarié du Svel Ugalvese. Eh oui, j'ai animateur quoi de Osbelio pendant un an et après j'ai eu ce poste de pion au collège de Calvi.
Où tu es resté 3-4 ans.
Alors, ça a été parce que je suis resté d'abord 1 ou 2 ans, après je suis parti à l'armée parce que moi j'ai fait le service.
Oui, et tu es revenu avec Jean-Pierre.
Voilà, et je suis revenu avec Jean-Pierre Beaune et et après j'ai passé mon CAPES en 94.
Alors après. Parce qu'à un moment, il y a une phrase qui m'a plu, c'est que tu as dit « Les francs, un autre siècle ». Est-ce qu'aujourd'hui, avec ton expérience, ton vécu, il y a un petit peu de... Comment je pourrais dire ? C'était mieux avant, ce discours-là, des fois, non ?
Moi, je ne suis pas nostalgique. Non, moi, je ne suis pas dans la nostalgie. J'ai plein de bons souvenirs. Ça, c'est le bon côté de la mémoire. Je pense qu'il faut l'entretenir. C'est important d'avoir la mémoire des anciens, la mémoire de la culture, la mémoire de plein de choses. Et puis là, sa mémoire personnelle, hein, de sa vie passée, ça c'est important. Moi, ma vie, je te disais, au quartier neuf, ça a été pour moi une des plus belles choses, quoi. On s'est régalé. Mais je ne suis pas nostalgique, parce que pour moi, la nostalgie, c'est un poison. On n'avance pas avec la nostalgie. C'est un poison parce que on ne va pas revenir en arrière. On peut faire mémoire, mais revenir en arrière, on ne pourra pas. Il faut aller de l'avant. Et on va de l'avant quand on a de la mémoire, pas de la nostalgie. Parce que quand on a de la nostalgie, on n'avance plus.
Obtention du CAPES, prof de Corse. Alors, on va parler de cette expérience. Parce que tu as été des deux côtés, le côté pion, côté prof. Tu as vécu avec plusieurs générations d'élèves, finalement. Ouais. Tu as vu un petit peu l'évolution. Mmh. Qu'est-ce que tu en retires de cette expérience ?
Mais moi, j'étais très heureux d'être enseignant. Je pense que ça a été vraiment une de mes vocations. Hein. Ça n'a pas été par défaut que je l'ai fait. Hein. J'ai vraiment choisi.
Oui, parce que moi, je suis de la génération où, arrivé avec la licence,
ouais.
Quand on prenait des voies générales, c'était pas UFM.
Ouais, ouais, non, moi, ça n'a pas été par défaut. Hein. Puis moi, j'ai toujours voulu faire des lettres, hein, des lettres, des langues, de l'histoire. Hein. Contrairement, je dirais, aux dogmes qu'on nous imposait et qu'on continue de nous imposer dans le système scolaire, où il faut absolument prendre les filières professionnalisantes qui mènent à un métier, papapa. Moi, j'ai toujours été... Là-dessus, j'avais une certaine maturité. J'ai toujours été contre. On a voulu me faire abandonner le latin, me faire abandonner l'italien. Il fallait prendre absolument anglais, espagnol, informatique. J'ai toujours refusé. Et je n'ai jamais été un jour au chômage. Jamais, jamais, jamais. Pourquoi ? Parce que j'étais élevé dans une famille où le travail, c'était sacré. Et ben, si on ne pouvait pas faire prof, ben, on faisait manœuvre. Si on ne pouvait pas faire manœuvre, on faisait agent de change, etc. Donc, moi, je n'ai jamais été un jour au chômage. Je n'ai jamais accepté de vivre dans l'oisiveté et dans la paresse. Voilà, donc... J'étais très heureux d'enseigner et moi je dois dire que j'ai beaucoup appris avec mes collègues et avec mes élèves aussi. Ils m'ont beaucoup apporté.
Est-ce qu'entre le début et la fin de cette expérience, tu as relevé des changements de comportement souvent on se plaint, les parents se plaignent, les enfants sont plus durs, c'est plus compliqué, ouais. C'est pas comme avant.
Ouais, voilà, bon, bah, y a les deux sont, enfin, je pense que. C'est vrai que la société évolue, et ça, c'est pas nouveau, ça. C'est pas au XXe siècle, au XXIe siècle que la société évolue. Ça, c'est une constante. Sinon, on vivrait toujours dans les cavernes. Bon, donc la société évolue, effectivement. Il y a des changements de fond, il y a des changements de surface aussi. Il faut savoir les distinguer entre ce qui est de profond et ce qui est superficiel, dans les changements et dans les évolutions. Ce qui est superficiel, ça relève de la mode, ce sont des effets de mode. Et ça, à la limite, il ne faut pas non plus trop s'en préoccuper, c'est passager. Les transformations, les mutations profondes, ça, elles sont plus intéressantes ou préoccupantes, selon la nature des transformations. Donc moi, comme je disais tout à l'heure, arrêtons de voir toujours les évolutions de la société à travers le prisme de la nostalgie. Quand j'étais petit, on était plus respectueux, patati patata. Oui et non. Oui et non. D'accord. Je veux dire, ce qu'on constate, c'est que notre société, la société occidentale, est une société en crise profonde, une crise de valeurs, et la Corse n'est pas sur la planète Mars. La Corse, elle est dans la société occidentale. Et voilà. Eh ben, la Corse, elle subit, elle aussi, les dommages, les affres, et aussi les points positifs de la société actuelle. Bon, moi, ce que je voudrais dire, c'est que effectivement, notre société occidentale, arrogante, prétentieuse, qui veut apprendre au monde à vivre, je pense qu'elle a des leçons à prendre aussi. Et le consumérisme galopant et dévastateur qu'on connaît, je ne pense pas que ce soit un modèle de société bénéfique pour notre jeunesse. Il n'y a pas de génération spontanée. Moi, j'en ai marre d'entendre dire « Ah, les jeunes aujourd'hui !» Mais les jeunes, c'est nous qui les avons fait comme ça. Ils sont pas nés comme ça. Ils ne sont pas sortis de terre tordus. Non, c'est nous qui les avons tordus. S'ils sont tordus, et ça, j'en suis pas convaincu. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes en Corse, ça je le constate fréquemment, qui sont des travailleurs.
Ah non, on le voit à l'émission. Hein. Ceux que j'invite, c'est des gens qui sont quand même assez volontaires.
Plein de gens qui font des choses.
Et qui luttent contre l'insularité. C'est-à-dire que c'est ouais. Plus difficile. C'est concret, c'est réel. Ouais. C'est quand même plus difficile ici de s'en sortir que sur le continent, tout ça. Même si sur le continent, personne ne nous attend non plus.
Non.
Mais il y a quand même des gens qui se relèvent les manches et qui bougent.
Tout à fait. Non, mais moi, j'en suis convaincu. Et moi, je pense qu'il faut être aussi... il faut le dire, ça aussi. Parce que ça aussi, c'est contagieux. Comme la médiocrité est contagieuse, et je veux dire, et malheureusement, à Calvi, en Corse, on le constate et on la déplore, cette médiocrité. Ceci dit, il ne faut pas s'en contenter. Il faut dire aussi qu'il y a des gens, des jeunes et puis des moins jeunes, qui font des choses, qui sont entreprenants et qui font des choses positives.
Il y a aussi une petite période de chanteur.
Ah ouais, ben c'est pas une petite, parce que je continue. Hein. Un chanteur professionnel, tu veux
voilà.
dire.
Voilà.
Ah oui, ça c'est... Ouais. Avec la Villette.
Voilà. Là aussi, parce que tu es multifonction. Hein. tes multifonctions, parce qu'après on va parler de ton rôle dans l'associatif aussi, on va parler de ton rôle au sein de la confrérie, dans la politique, ça je me le garde comme un bonbon plus tard. Est-ce que tout ça, tu t'ennuies ? Au fait, quand tu rentres chez toi, tu t'ennuies ?
Ah non, c'est pas du tout une fuite, absolument pas. Non, non, c'est vraiment la recherche d'un, quel sens donner à notre vie ? Quel sens ? Avec ses incohérences, avec ses contradictions, ça il faut les assumer. Hein. Moi je les assume, mes contradictions, je les assume. Ça ne veut pas dire que je m'y complais, hein. Je les assume, c'est-à-dire que je travaille dessus. Ceci dit, l'investissement personnel pour le collectif, pour moi, c'est le sens de ma vie. Avec des erreurs, avec des échecs, avec des réussites, voilà, ça c'est la vie. Mais trouver un sens à ma vie, c'est dans l'investissement, dans le collectif, pour moi, c'est fondamental. Et ça a guidé toutes mes actions.
Oui, parce que ça a commencé très tôt avec, du coup, le Svel, ensuite, Juventus Emos.
Oui, et puis même à la confrérie, puisque moi, très tôt, j'étais à la confrérie. Hein, à l'âge de 13 ans, j'étais à la confrérie. Donc, il y a vraiment eu la recherche. Alors, bien sûr, ça n'était pas conscient comme ça l'est aujourd'hui. Là, je fais une relecture hein, avec toi, mais dès le départ, ce n'était pas aussi conscient, aussi affirmé, aussi clair, aussi bien défini. Ceci dit, ça a guidé ma vie quand même, parce que je suis d'une famille aussi où les autres, ça compte. L'accueil des autres, ça compte. L'accueil de la différence, l'accueil de la diversité, vivre la porte ouverte, ça compte dans ma famille. La table ouverte, ça compte dans ma famille. Et ça a façonné un peu ma personnalité.
Alors, le rapport à la religion, ça apparaît quand ? Est-ce que, je suppose très tôt, puisque tu as été enfant de cœur, parce que tu es rentré très tôt à la confrérie, je suppose que ce n'est pas un deus ex machina, comme Bernadette Soubirous, tu as eu une apparition, ça s'est fait progressivement. Ça s'est fait progressivement. Comment ça vient ?
Alors, d'abord, à 6 ans, je servais la messe. Parce que ma grand-mère nous amenait, mon frère et moi, Domé, servir la messe.
Qu'on salue d'ailleurs.
Voilà,
qu'on salue. Qui on souhaite un prompt rétablissement.
Oui, ça va un peu mieux. Et, donc moi très tôt, j'étais versé dans la religion. Très, très tôt. Hein. Voilà, donc, des gens me disent souvent, ah, c'est une vocation tardive. Non, si je dis, c'est pas une vocation tardive. C'est un déclic tardif. Ce qui est un peu différent. La vocation, je pense que je l'ai toujours eue.
Est-ce qu'au départ, c'était coercitif ? Est-ce que quand on a commencé à t'emmener à la messe et tout ça et tout...
Mais non, mais ça c'est voilà.
Je pose la question.
Ouais, ouais. Mais ça, c'est, voilà, ça c'est le type de réaction d'aujourd'hui. Aujourd'hui, comme ça, je suis un peu dans la nostalgie, tu vois, aussi un peu. Voilà, aujourd'hui, tout est lu sous l'angle de j'ai le droit, j'ai pas le droit. J'ai droit à ça ou j'ai pas droit à ça. Or, dans toutes les sociétés du monde, l'éducation, ça passe par une obligation. Il n'y a pas d'éducation à la vraie liberté sans passer par l'obligation.
Faut savoir dire non.
L'école est obligatoire.
Il faut apprendre à dire non.
Oui, ben oui. L'école est obligatoire pour le bien de l'enfant et du futur citoyen. La politesse est obligatoire. Alors, je ne sais pas si on le sait encore, pour le bien de la société.
Allez voter. C'est fortement conseillé.
Voilà, aller voter, ça devrait être obligatoire. Enfin, obligatoire, vraiment fortement conseillé, parce que c'est pour le bien de la société. Donc il y a tout un tas de choses qui nous paraissent aujourd'hui être des atteintes à nos libertés.
Surtout qu'il y a des gens qui se sont battus pour.
Voilà, en plus. Et donc l'éducation, ça passe aussi par des moments où on dit, mais c'est pas l'enfant qui décide, c'est l'adulte, point final, pour son bien à lui. Et là, maintenant, je peux le dire, ça a été pour mon bien, au final. C'est véritablement pour mon bien. Pas seulement personnel, mais pour mon bien aussi.
Donc, 6 ans enfant de cœur, tu connais la S par cœur, tu la sais. Tu vas à la confrérie. Moi, je voudrais qu'on voit tous les deux un petit peu les étapes, la montée crescendo vers cet engagement tardif. Voilà. Puisque voilà, je ne veux pas dire vocation tardive. Est-ce que toi, aujourd'hui, concrètement, tu vois des étapes au fur et à mesure de... En refaisant un peu le schéma en arrière, tu vois des étapes qui ont mené vers ce choix définitif.
Bah ouais, clairement. Hein. Les étapes, c'est pour moi, les étapes, c'est les différentes rencontres que j'ai eues dans ma vie. Des rencontres en église et des rencontres en dehors de l'église.
Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont poussé à un moment donné à...
Non, jamais. On m'a jamais parlé de ça, mais moi j'avais ça au fond de moi, hein. Et je vais te dire franchement, ça a même été quelquefois, quand c'était très présent, une souffrance, mais quasiment physique, de ne pas répondre à cet appel que je sentais qui était évident et auquel je n'arrivais pas à répondre pour des raisons, sûrement des blocages psychologiques, je sais pas, familiaux, même pas familiaux, mais bon, bref, des blocages assez divers. En tout cas, jusqu'au jour, j'ai répondu. Mais ce qui a vraiment accompagné tout au long de ce cheminement un peu chaotique, mais en même temps, intérieur, je veux dire, hein, spirituel, mais en même temps beau, hein, ce sont des rencontres avec des personnes, avec des prêtres, avec des confrères, avec les dames de la chorale ou tout un tas de personnes dans l'église, mais aussi, et je dirais même surtout, des gens qui étaient en dehors de l'église et quelquefois loin de l'église. Et qui ont su me témoigner de ce qu'était l'humanité. Parce qu'un prêtre, il peut pas oublier qu'il est d'abord un homme. Si le prêtre oublie qu'il est un homme, c'est pas un être hors sol, le prêtre. Tu vois, il n'est pas hors sol. Il faut qu'il soit incarné. Et la religion chrétienne, c'est la religion de l'incarnation. Et si on oublie ça, ça n'exclut pas le spirituel, le mystique, tout ça, attention, hein. Mais si on oublie cette dimension profondément humaine de l'incarnation, c'est-à-dire les pieds sur terre, ben, on loupe quelque chose. Et moi, je rends grâce et je remercie tous ces gens que j'ai rencontrés. Je peux en citer, hein, Osbeliu, par exemple, Avileta, en politique, Orlando, mes collègues, qui n'étaient pas tous des grenouilles de bénitier, loin s'en faut, hein, même il y a quelques anticléricaux chez mes collègues, hein. Mais c'est cette rencontre et l'éducation que j'ai reçue de l'accueil de la diversité qui m'a permis de trouver chez ces gens, même quelquefois hostiles à l'Église, des gens qui m'ont apporté quelque chose. Tu vois, une espèce comme un écho à, de manière différente, hein, un écho à cet appel intérieur.
Alors c'est assez rigolo ce que tu dis, que ça a été un petit peu chaotique, qu'il y a eu des moments de doute, qu'il y a eu des... Alors que quand finalement ça s'est su et qu'il y a embrassé définitivement cette voie, pour tout le monde, ça paraissait évident.
Évident, ben oui, bien sûr, c'était évident. Mais même pour moi, après. Ça l'a été dans la seconde où j'en ai parlé à l'archiprêtre.
C'est la première personne qui a été au courant ?
Ben oui. C'est-à-dire que, bon, moi, j'allais à la messe tous les matins. Et puis, je le raconte souvent. J'ai même raconté le 28 pour la première messe. Donc, je peux le raconter encore parce que c'est un moment inouï et en même temps drôle. Très drôle, tu vois. C'est... Après la messe, j'ai dit, monsieur le prêtre, il faut que je vous parle, et puis il me dit, bon, on verra, il faut que je vous parle. Puis là, je lui dis, et puis il me dit, bon, ben d'accord, bah, on va voir l'évêque, quoi. Et à ce moment-là, ça s'est ouvert, quoi. C'est un soulagement, mais ça s'est ouvert, et j'ai tout compris. J'ai tout compris que tout ce cheminement qui a été quelquefois un peu laborieux, très souvent joyeux, toujours heureux, mais laborieux quand même, ce long cheminement menait là. Et ça, ça nous échappe. C'est ça qui est un peu mystérieux. Donc, j'ai pas vu la Vierge Marie à la fenêtre. Personne ne m'est apparu. Ça s'est traduit comme ça, hein. Mais ça peut arriver, hein. En tout cas, moi, ça s'est pas passé comme ça. Mais, la véritable joie profonde, tu vois, et relire d'un coup toute ta vie, tu vois, qui te réapparaît, te dire, mais voilà, mais c'est ça, en fait. Ça a été des jalons. Tout ce que j'ai vécu, ça a été des jalons qui m'ont mené jusqu'ici.
Alors, on va passer un petit peu aux questions qui fâchent. Dans l'émission, il y a toujours les questions qui fâchent.
Allez, vas-y.
On a une petite musique. Dans...
On peut partir ou pas?
Est-ce qu'on a le droit de douter quand on est maintenant dans ta position?
Ah, le droit... C'est pas en ces termes qu'il faut le dire. Hein, encore une fois, c'est pas un problème de droit ou d'interdit. Lorsqu'on fait un cheminement spirituel, et tous les hommes sont appelés à le faire, tous les hommes, toutes les femmes de ce monde, hein, un cheminement spirituel, il y a toujours, nécessairement, donc c'est nécessaire, des moments d'interrogation. Parce que ce sont des moments, ce qu'on appelle en éducation, des crises de croissance, qui sont bénéfiques, qui sont douloureuses, mais qui sont bénéfiques. Je rappelle juste Sœur Teresa, hein, Mère Teresa de Calcutta. Elle a fait un travail énorme, hein, auprès des pauvres, qui n'étaient pas forcément des chrétiens d'ailleurs. Ça, c'est à noter. Elle a eu quand même...
D'origine albanaise.
Ouais, quasiment 50 ans de nuit de la foi. 50 ans où elle ne sentait plus la présence du Christ. Et elle a continué. Elle a persévéré. C'est ça qu'on appelle la foi. C'est-à-dire croire sans voir. Croire sans sentir. Donc ce n'est pas des doutes. C'est cette absence de Dieu qui se fait tellement difficile à supporter, tellement lourde qu'on en souffre. Mais la foi, c'est persévérer dans ce chemin.
Est-ce qu'on a le droit d'avoir de l'ambition?
C'est-à-dire... Quand on est prêtre?
Je sais pas.
Non.
Évêque?
Non.
Cardinal?
Non, on est
pape,
appelé.
Peut-être.
On est toujours appelé. On a...
Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des échelons à passer, des étapes, ou est-ce que c'est à l'ancienneté? Moi, je suis novice, hein, non,
d'abord, on est toujours appelé par l'Église et par ses supérieurs. Quand on veut devenir prêtre, entrer au séminaire, on propose donc à l'évêque de rentrer au séminaire et lui choisit, oui ou non, de t'appeler ou de ne pas t'appeler. Puis après, pendant tout le séminaire, 6 ans d'études, 6 ou 7 ans d'études, il y a des étapes comme ça. On devient d'abord, on est admis, puis après on devient acolyte, etc. Il y a des étapes qui sont marquées par des célébrations liturgiques. Après, on est appelé pour être diacre, et après prêtre. Voilà. On est appelé toujours. On demande, il y a une demande, mais on est appelé. Évêque, c'est pas pareil. Évêque, c'est le pape qui appelle, pour des besoins particuliers de gouvernement de l'église, d'une église locale. Donc on ne pose pas une candidature. Si quelquefois on a pu, dans le passé, constater qu'il y avait des candidatures et des intrigues, bon, l'histoire des hommes, c'est l'histoire des hommes, il ne faut pas non plus être... On n'est pas dans le monde des bisounours, hein. On sait qu'il y a eu des périodes de l'histoire de l'Église qui ont été plus ou moins fastes. Bon, ceci dit, il y a toujours un appel. Quelle que soit la démarche, il y a toujours un appel du pape, de l'Église. Hein. Ça passe toujours par ça parce que l'Église représente le Christ et que le Christ appelle à travers son Église et ses représentants hiérarchiques. Voilà. Donc, non, il n'y a pas d'ambition à avoir. La seule ambition qu'on puisse avoir, c'est de servir le peuple de Dieu. C'est la seule ambition qu'on doit avoir en tant que prêtre, rien d'autre. Et puis, notre bonheur, il est là. Et si un jour tu es nommé, archiprêtre de la cathédrale d'Ajaccio, le top du top dans la hiérarchie dans l'église de Corse, être prêtre, c'est savoir la fois suivante être vicaire dans une petite paroisse. Tu vois? C'est ça la seule ambition qu'on doit avoir.
Alors, on va faire juste petite pause, puisque c'est... Alors, on va me taxer de clientélisme, tout ça. Bon, on est à Calvi, hein, c'est Calvi et clientélisme. Ça peut rimer. C'est Christopher Biqueray qui a gagné les deux places. Mon collègue de travail, hein, ça fait super, il marque bien. Hein, est-ce que je vous dise.
Je l'ai eu à l'école, lui, par contre.
Ah, oui. C'est dommage, mais il était invité, j'aurais dû te voir avant. Sur les 6 ans d'études, quand on a enfin la révélation que ça marche et qu'on veut embrasser cette voie, est-ce qu'on se dit pas c'est long quand même?
Moi je me suis pas dit ça.
Parce que du coup t'étais sur Aix.
Ah ouais.
Tu les as passés sur Aix, t'as passé 5-6 ans sur Aix. Est-ce qu'on se dit pas, ouais, pendant 5-6 ans quand même, tandis que ça y est, c'est bon, je suis.
Non, moi je veux dire franchement, hein, au début.
Est-ce que tu as appris des choses? Parce que toi tu savais tout.
Mais non, c'est jamais tout. Tu plaisantes, en tout cas. Et puis j'ai pas fini d'apprendre. Hein. Je dis pas. Hein. J'ai des cartons de bouquins là qu'il faut que je potasse encore parce que on n'a jamais fini d'apprendre. C'est... Mais sinon, si on est arrivé, c'est foutu. C'est le drame de notre société, c'est de croire qu'on arrive un jour. Et non, on n'arrive pas. La beauté de cette démarche, c'est justement, c'est une démarche. C'est un chemin. C'est un cheminement. C'est une progression. Si on s'arrête sur le bord du chemin, on est mort.
Enfin, quand tu es arrivé là-bas, enfin, entre tout ton parcours à la...
Oui, bien sûr, je comprends.
À la confrérie. Ton parcours personnel.
Non, mais je suis arrivé à des bagages.
Tu es arrivé avec énormément de bagages.
Oui. Ah non, et puis une maturité, pour le coup. C'est, contrairement à mon expérience malheureuse à Nice, là, il y avait une maturité. Bon, il y avait une vraie maturité, parce que je suis arrivé là-bas à 48 ans, quand même.
Est-ce qu'il y en a qui arrivent un peu en touriste?
Ça peut arriver. Parce qu'il y a la première année, en fait, c'est pas vraiment une année d'études, c'est une année de discernement et d'enracinement spirituel.
Donc là, il peut y avoir la perte. C'est cette année-là où...
Ouais, même tout le long aussi. Mais sinon, si tu veux, cette première année-là, elle est là, non pas pour s'engager, mais pour, voilà, pour discerner. Est-ce que c'est vraiment ça ma voix ? Elle est très intéressante, l'année de propédeutique. Hein. Elle est très intéressante parce qu'on ne nous met pas le grappin dessus. C'est pas vous allez être des prêtres. Non, 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 c'est vous êtes là. Vous allez réfléchir, prier, apprendre à chanter les chants grégoriens, je ne sais pas quoi. Et puis surtout à vivre en communauté. Bon, moi, ça ne m'a jamais dérangé de vivre en communauté. Donc, je n'ai jamais eu de problème de... La promiscuité, ça ne me dérange pas. Vivre simplement dans une petite chambre, ça ne me dérange absolument pas. Prendre la douche dans le couloir, ça ne me dérange pas. Voilà, ça dérange peut-être d'autres. Moi, ça ne me dérange pas parce que moi, j'ai fait l'internat, l'armée, donc c'est pas ça qui me dérange. Mais moi, l'inquiétude que j'avais au départ, c'est ben, quand tu arrives à 48 ans, 50 ans, tu as une maturité, tu as des bagages, mais ben, je veux dire, tu as commencé, la mémoire commence un peu à flancher. Bon, il faut dire les choses comme elles sont. Hein. Tu n'as pas des capacités de mémorisation que tu as quand tu as 20 ans. Ça, c'est clair. Je ne vais pas... voilà, c'est le seul petit... Mais sinon, je n'ai jamais eu peur des 6 ans de d'études. Et puis, il n'y a jamais eu un moment de lassitude profonde, des moments de ras-le-bol, oui, mais pas de lassitude profonde. Voilà.
Est-ce que là, avec l'ordination, tu t'es rendu compte que tu vivais un peu l'histoire de Calvi ? C'est-à-dire que quand tu es arrivé le lendemain d'Ajaccio, la ville t'attendait, t'a accueilli.
Ah oui, ça.
C'était un accueil chaleureux, énorme. Ça fait quoi ? Il y a un petit peu de fierté, il y a de l'émotion, parce que pour le coup, c'était exceptionnel.
Ah, c'était magnifique, quoi. Je veux dire, les démarches, les manifestations d'affection, d'amitié de la part des gens, mais de tous les gens que je voyais en ville, hein. C'était quelque chose d'incroyable, quoi. Bon, la célébration à Calvi était magnifique, surtout quand je suis parti de ma maison natale, hein. Donc la maison Bertogne, dans la rue, là, sur le boulevard. Il y avait 35 séminaristes, il y avait une vingtaine de confrères, une vingtaine de prêtres. Et ma famille qui m'accompagnait, il y avait des gens partout qui tiraient du riz. Enfin, il y a eu des démonstrations spontanées de la part des Calvais qui m'ont énormément touché, quoi. Bon, je sais que les Calvais sont chaleureux, on le sait, hein, je veux dire, c'est une ville accueillante, c'était vraiment une population qui est très, très, très attachée à ses membres. Il y a des vraies relations encore à Calvi. J'espère que ça va durer, il faut qu'on entretienne ça. Des vraies relations, c'est pas des choses fausses, quoi. Mais j'ai vraiment été... Moi, j'ai été très touché par les anciens qui m'interpellent dans la rue, qui me félicitent, qui m'embrassent, même si on a une période un peu difficile, mais bon, voilà. Des plus jeunes, des anciens élèves, et puis des élèves qui sont pas forcément catholiques. Des anciens élèves d'autres religions qui traversent le boulevard pour venir me saluer, quoi. Et me féliciter, me dire « Pierre, vraiment, bravo, félicitations ». Ça, c'est hyper touchant, quoi. C'est vraiment hyper touchant. Et effectivement, je suis très fier d'être calvais et d'être né dans une communauté qui entretient encore ce genre de relation.
Alors, tu as vécu un deuxième grand moment d'histoire. Il y a la sortie du Christ noir. L'année dernière, hein, pendant le premier confinement. Alors là, pour toi, ça devait avoir une saveur particulière. Puisque c'est toi qui le portais. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là ? On a la sensation, je l'ai posé au curé qui ne s'était pas posé la question, et finalement, il me disait que c'était très intéressant. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là ? Est-ce qu'on sait qu'on rentre dans l'histoire ?
Je ne sais pas si je suis rentré
dans l'histoire. La petite histoire de Calvi, hein,
c'est-à-dire
qu'on a participé à ce moment d'histoire, en tout cas.
Oui, bah, c'est un moment très fort, hein. Ça c'est clair. Non, moi, j'ai été touché par la démarche spontanée des deux confréries, hein, qui ont justement, c'est eux qui ont proposé cette procession à la veille du confinement, hein, puisque voilà, le soir c'était fini. Et puis un confinement sec pour le coup, hein, parce que là, ça a été un confinement fermé, hein. Non, moi, c'est l'idée d'être voilà, un des maillons. Enfin, en tout, c'était des maillons de cette longue chaîne de l'histoire calvaise. Donc on a été, par cet acte-là, reliés aux différents actes de foi qui ont ponctué l'histoire de notre ville et de notre communauté à travers les processions et puis surtout les sorties exceptionnelles et rares du Christ noir au cours de l'histoire. Bon, on se souvient de la sortie de, lors du siège franco-turc en 1555. Mais il y en a eu d'autres, hein, puisqu'il y a eu des incendies, des épidémies de peste, bon, beaucoup de choses, et puis des sorties qu'on a oubliées aussi. Hein. Voilà, de s'inscrire dans une
oui,
histoire...
Oui, puisque la dernière, beaucoup de gens ont du mal à...
Sur alors,
la
moi,
dernière
j'ai des photos,
avec Flore.
C'est dans les années 60.
Voilà.
Mais je pense que c'est, en fait... Je pense qu'il a fait comme un jubilé, je crois. Hein. Donc, une sortie jubilée. Une sortie jubilaire du Christ noir. Voilà. Parce que comme Flore était historien, il a dû sortir ça pour fêter quelque chose. Ouais.
Direction Sartène. Alors, est-ce que tu connais bien cette ville?
Oui, très bien, oui.
Est-ce que tu es content?
Oui.
Allez, Jean de Sartène qui est dans... Non, ça me...
Ah non, 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 je suis très content, hein, bien sûr. Moi, je suis content, d'abord, parce que j'avais dit à l'évêque que j'irais là où il voulait m'envoyer, c'est-à-dire dans un trou perdu, dans le sud, dans le nord, dans l'ouest, dans l'est, dans un quartier difficile de Bastia ou d'Ajaccio, j'irais où on m'enverrait. Vicaire, sous-vicaire, sous-sous-vicaire, c'est pas ça qui m'importait. L'important pour moi, c'était d'être au service de l'Église et du peuple vers lequel j'étais envoyé. Voilà, il se trouve que c'est Sartène, ville de tradition, qui fait un peu écho aux traditions calvaises, parce qu'on n'a pas à rougir, nous, les calvais, de nos traditions la Semaine Sainte. Voilà, non, et puis je connais bien, oui.
Je me la gardais un petit peu pour la fin, avant les questions flash. Engagement politique.
Oui.
T'es présenté une fois.
Oui, pas, non, deux fois.
Deux fois.
Ah oui.
Contre Monsieur le maire.
Contre Monsieur le maire, oui.
Alors... Quelles sont les motivations à l'époque de se lever contre une majorité sortante?
Alors, le fond de ma motivation, c'est toujours le même. C'est-à-dire que donner du sens à mon engagement, un vrai sens à mon engagement, et trouver une cohérence dans tous mes engagements, qu'ils soient associatifs, d'église, professionnels. Et l'engagement politique est un engagement noble, à mon sens, qui fait partie de tout ce panel de possibilités d'agir dans la société pour améliorer la société, pour tenter d'améliorer la société. Il ne s'agit pas de faire la révolution, je n'en suis pas capable et je ne vais pas tout faire moi. Mais il faut rester humble et modeste. Voilà, donc la deuxième motivation, c'était de dire que quelle que soit la majorité, il faut absolument qu'il y ait une deuxième voix qui puisse se faire entendre. Il n'y a pas de dialogue politique s'il n'y a pas de personnes, s'il n'y a pas deux interlocuteurs. Il y a un interlocuteur principal qui est la majorité, le maire, et puis sa majorité. Et il fallait qu'il y ait une voix aussi qui puisse dire autre chose ou dire différemment les préoccupations des calvais et puis aussi les rêves des calvais. Parce que faire de la politique, c'est rêver aussi. Aujourd'hui, le rêve, malheureusement, il est remisé, voilà, c'est des idéalistes, c'est des fous. Eh bien, moi, je suis idéaliste, ouais. Je suis un peu fou, c'est vrai. Et je crois qu'il faut rêver. Et si on ne rêve pas, on ne va pas loin en politique.
Exercice de l'opposition facile, pas facile?
Non, pas facile.
Vous n'hésitez pas beaucoup, en plus.
On était trois, oui. Non, mais exercice intéressant, quand même, parce que ça forme, hein, c'est très formateur. Ah oui, c'est très formateur. Formateur aussi de sa propre humilité et de constater que ben on n'est pas au point sur tout. Et puis aussi difficulté parce que ben quand on travaille, quand on a un boulot aussi prenant que le mien, hein, enseignant, ben on n'a pas toujours le temps de tout faire quoi. Bon, donc c'est pas toujours facile. Et puis voilà, moi je le dis avec beaucoup de simplicité. Bon, j'ai pas réussi à remplir tout ce que je voulais faire parce que voilà, j'étais pris par mon boulot et puis une majorité, c'est une majorité, il y a beaucoup de monde dans une majorité, hein, par définition, et donc ça occupe beaucoup de place et nous on avait des difficultés.
On va conclure avec les questions flash. Avant, je rappelle, il faut me citer deux lieux au 06 50 60 78 34 d'achat des billets pour le Calvi Comédie Festival à Calvi. Alors, les questions flash, elles sont très simples. Je vais te poser une question, il faut me répondre très vite.
Oui.
Si tu étais une qualité.
Une qualité. C'est pas la rapidité, en tout cas.
Ah oui, parce que...
c'est pas la rapidité.
Vivacité d'esprit.
Non, je sais pas. Aucune idée. Bon, la disponibilité, allez.
Un défaut. Là, c'est plus simple.
Oui, c'est plus simple. Là, des fois, je suis, j'ai un mauvais caractère.
Non.
Oui.
Est-ce que tu as un héros de fiction ou de vie réelle?
Un héros, oui, c'est Saint-François d'Assise.
Ah, c'est le mien.
Voilà, c'est le mien aussi.
Ce que tu détestes le plus chez l'homme?
Le chantage. J'ai horreur du chantage. Affectif ou quoi. Voilà.
Est-ce que tu as une phobie?
Une phobie Oui, qu'est-ce que j'ai comme phobie? Non, je ne vois plus. Non, là, je vois pas, non.
Rien de particulier, pas de truc, le vide, tout ça? Non,
non, non, non, le vide. Non.
Oh, non. Est-ce que tu as un péché mignon?
Un péché mignon. Qu'est-ce que j'appelle un péché mignon? C'est dur, c'est une question.
Quelque chose où tu sais que tu ne vas pas résister.
Ah, le chocolat.
Ah.
Il y en a un autre.
Une insulte favorite?
Je ne peux plus le dire maintenant.
Ah,
insultes.
C'est fini?
Ah non, c'est fini.
C'est fini?
Ah ouais, bon. Ça ne m'empêche pas de le dire. mais je m'en confesse.
D'accord. La dernière fois que tu as pleuré?
La dernière fois que j'ai pleuré, je crois que c'était. C'était quand la fois que j'ai pleuré.
Quand je t'ai appelé pour faire l'émission?
Non.
Non.
Oui aussi, mais c'était pas, je ne pleurais pas d'émotion. La dernière fois que j'ai pleuré, je crois que c'est mon ordination, hein, je crois.
Est-ce que. Là, si je te les pose comme ça vite fait, si tu devais revenir en arrière et dire quelque chose au petit garçon qui était à 10 ans, qu'est-ce que tu lui dirais?
Je lui dirais, continue sur te voir, mon coco, c'est très bien, tu vas trouver un sens à ta vie.
On lui dit pas, faut accélérer, faut s'écouter un peu plus.
Oui, mais est-ce que ça aurait changé quelque chose? Je pense pas, parce qu'en fait, je m'aperçois que, je veux revenir, mais ce qu'on a dit, hein, je m'aperçois que j'avais besoin de mûrir comme ça. Un fruit, quand il n'est pas mûr, on ne peut pas le cueillir. Et le Seigneur, il est venu me cueillir quand j'étais mûr. J'étais pas prêt, point final. Il n'y a pas de regret, il n'y a pas de nostalgie, il n'y a pas de dire, oh là là, j'aurais pu être prêtre depuis plus de 30 ans, voilà, j'aurais pu faire plein de... C'est comme ça. Voilà, j'ai 54 ans, je donnerai ce que je pourrais à l'Église et au peuple corse. Et puis voilà, la fécondité, c'est pas au nombre des années. Hein.
Pierre, je te remercie d'avoir passé ce moment avec nous. La semaine prochaine, je reçois... Pour la dernière émission, puisqu'après je fais quand même une pause estivale, j'en aurai besoin, on se reverra...
Par la rentrée?
Mi-septembre, non, par là-bas. Ouais. À la rentrée, moi j'ai les trois gosses, hein, donc j'ai tout le parcours à faire, le premier qui rentre au collège, tout ça, donc on va se donner le 10 ou le 15.
Ah, pas de problème.
Donc on reçoit Véronique Astolf pour la dernière. Pierre, je te remercie. Chers auditeurs, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne semaine et
à lundi.
Tenez bon.